Bonjour et bonne matinée à tous. 10h30, 11h30 sur France Inter. Isabelle Quenin est Secret de Star, la seule émission qui consomme une star tous les samedis matins au petit déjeuner. Ma star de ce matin est à l'affiche de Télépoche depuis lundi. C'est une star que l'on n'entend pas souvent, côté radio ou télévision, en tous les cas, pas depuis un an. Elle vit dans un univers fascinant, mélange de candeur et de perversion, Dixit François.
Le Figaro voit en elle une graine de Lucifer. C'est une chanteuse à panache hystérique, affirme Luma. Quant aux journalistes de Libé, ils voient en elle la seule chanteuse française qui a réussi à sadomiser le top 50. Mylène Farmer, bonjour.
Bonjour.
C'est quand même tout un programme. Le moins qu'on puisse dire, c'est vous inspirez complètement ces messieurs journalistes.
C'est en tout cas le principal.
Ça vous fait rire tous ces titres ?
C'est un petit peu outrancier quelquefois.
C'est pas tout à fait vous, c'est même pas du tout vous.
Si, il y a des parcelles de moi certainement. Mais quand c'est projeté à l'avant-scène, c'est toujours décuplé et quelquefois déformé.
En tous les cas là, on vient de voir ce que pense de vous la presse, qui sont toujours avides de bons mots. On va voir tout de suite, on va plutôt écouter tout de suite ce que pense de vous votre public, grâce à une enquête réalisée dans la rue, parmi vous, par François Steve Nicholson.
Quelle est sa véritable couleur de cheveux ?
Rousse.
Moi je serai rousse.
Elle est rouge, je sais, mais sa véritable couleur, je ne sais pas.
Elle est blonde.
Rouge.
Brune.
Oh, châtain clair.
Côté caractère, vous la voyez comment ?
Obsédé.
Sincère.
Quelque part un peu fabriqué quand même.
Ingénue. Espiègle.
Bourré de talent. Pas perverse quand même, mais bien dans sa peau. Non, mais bien dans sa peau.
Sincère.
Gentille et cool.
Ouais, elle est très cool.
Douce.
Perverse.
Du talent.
Ouais, très humaine.
Dans quel film pourrait-elle jouer ?
Léo de Hurlevent.
Bah déjà qu'elle a pas d'air très douée pour la musique, le cinéma, j'en ai aucune idée.
Elle serait pas mal dans un film un peu perverse quand même.
Ma sorcière bien aimée.
Autant n'importe le vent.
Moi je la vois dans tous les films, elle est vraiment super.
Ma sorcière bien aimée.
Les quatre sont cool.
Un bout de souffle.
Vous trouvez que c'est une star ?
Non, elle refuse.
Une star, ben... Quelqu'un de connu, ouais.
Une star, mais toute faite.
Non. Parce que pour moi, les stars, pour l'instant, ça n'existe plus. Je veux dire, les stars, pour moi, c'était Ava Gardner, c'est toute une époque. Et c'est pas du tout représentatif de notre époque.
Non.
Pour moi non plus, mais c'est quelqu'un de très important quand même.
Si c'était un animal, ce serait quoi ?
Un chat.
Un renard. Un rapace.
Je dirais plutôt une machine. Ce serait plutôt une machine à sexe.
Un écureuil.
Une renarde.
J'ai un oiseau.
Une féline.
Un tigre.
Une liane.
Un chat.
Une belette.
Dans votre entourage, ce serait votre petite sœur, votre petite amie, votre meilleure copine ou la fille que vous aimeriez avoir ?
La meilleure copine.
Une bonne copine.
Une copine, tout simplement.
Ouais une grande sœur.
Une meilleure copine.
Ma meilleure copine.
Ma tante.
Alors Mylène Farmer, là on peut dire chercher l'erreur. Hein. À part celui qui voit en vous sa tante, les autres voient en vous leur meilleure copine. Ça vous étonne comme réaction ?
Un petit peu, parce que j'ai eu moi beaucoup de mal à trouver une très très bonne amie. Cela dit, ça touche toujours ce genre de propos.
Pourquoi vous avez du mal à trouver une très bonne amie ? Vous devez avoir plein de monde autour de vous.
Oui, ce qui ne fait pas forcément la qualité. Moi, j'ai trouvé en tout cas mon univers proche et parfait, et celui que j'ai toujours désiré. Mais il est finalement très entouré de très peu de personnes.
Vous vous sentez seule ?
Parfois, mais je crois que c'est le lot de tout un chacun.
Vous avez peur d'être rejetée ou mal perçue ou...
Mal perçue, j'ai eu peur un peu au début quand j'ai commencé ce métier. Aujourd'hui, non, je qualifierais pas ça d'indifférence, mais ça m'est presque égal aujourd'hui. C'est-à-dire que j'ai entendu un mot qui revenait souvent, qui est la sincérité. Je crois que s'il y a une chose que je peux mettre en tout cas en avant par rapport à moi, c'est cette forme de sincérité. Donc il y a... qu'il y ait machinerie autour, ça, chacun pense ce qu'il veut, c'est pas important.
C'est le plus important pour vous ?
Que de la sincérité ?
Si vous aviez un trait de caractère, si je vous demandais quelle est votre qualité principale, c'est la sincérité que vous me diriez ?
Non, sans parler de sincérité, de la droiture, ça oui, j'en suis convaincue.
C'est difficile ?
Non, pour moi non. Pour beaucoup de gens, ça a l'air difficile, oui. Pour ce métier, c'est... Il faudrait y joindre le mot éthique aussi, puisque je pense avoir une éthique des vies et dans mon métier, oui, certainement. Et ça, c'est quelque chose que les gens n'aiment pas beaucoup.
Cette éthique, vous voulez être forgée, vous voulez être fabriquée vous-même depuis longtemps, c'est quelque chose que vous ont donné vos parents, une ligne que vous respectez, ou alors c'est quelque chose qui est venu petit à petit en évoluant dans ce milieu ?
Je crois que c'est moi qui l'ai trouvée toute seule. toute seule. Et puis c'est vrai que chaque jour qui passe fait que vous avez des éléments en plus pour réfléchir et puis pour ordonner et réagir. Maintenant, oui, c'est une construction.
Et c'est un garde-fou pour vous ? Ou c'est une...
Oui, probablement, oui. Oui, oui. C'est quelque chose d'essentiel pour moi. Si je dérive un jour et si je m'écarte de ce chemin-là, je sais que j'aurais décidé de me perdre complètement.
On va rester, si vous voulez bien, dans le caractère. Mm-hmm. Avec des réponses, alors on a eu obsédé, pervers, sincère, fabriqué, ingénieux, espiègle.
Je suis tout gentil, ça, certainement.
Gentil, cool, très cool même, et humaine. Mm-hmm. Si vous aviez à nous faire votre portrait...
C'est exactement la chose que j'ai du mal à faire et que peut-être que je n'aime pas faire du tout. C'est parler de soi, c'est une chose, c'est vrai pourquoi j'ai choisi l'écriture, c'est pour parler de moi certainement, mais ma foi, dévoiler ces choses intimes, c'est quelque chose d'un peu difficile pour moi. Si j'ai quelque chose à extraire, en tout cas, de tout ça, je...
Ce serait quoi ?
J'avoue que j'en sais rien.
Alors, parler de soi, c'est difficile, mais quand les autres parlent de vous, oui. Quelle est votre réaction ? Quand vous lisez, parce que ce que j'ai lu tout à l'heure, tous ces intitulés, enfin, c'était des titres d'interview, enfin, des titres de papier vous concernant, quelle est votre réaction ? Quand vous voyez, quand vous lisez la presse qui vous concerne ?
Elle n'est malheureusement pas quelquefois, elle n'est jamais indifférente. Je dis quelquefois malheureusement, parce que c'est vrai, quelquefois, ça peut faire du mal. Maintenant, j'ai quand même un recul suffisant pour ne pas être trop égratignée par ça, mais, moi, j'ai en tout cas ce paradoxe, c'est de lire spécialement les papiers qui font mal, on les relit, et on se demande s'il y a une vérité quelconque. Mais il y a des papiers qui sont tellement méchants que ça en devient drôle aussi.
Si on parlait des stars, c'était amusant parce qu'il n'y a pas beaucoup, il n'y en a pas beaucoup qui vous trouvent star. Mm-hmm. Pas encore, elle est star quelque part, mais c'est pas...
J'aurais la même difficulté que ces personnes de donner cette définition d'une star. Moi, je dirais que c'est un état. Maintenant que les gens le perçoivent pas, je pense pas que ce soit un problème non plus. J'avoue que c'est pas mon souci premier non plus. Ce que je veux, c'est réussir ce que je fais et puis avancer et j'allais dire grimper, oui, et m'élever au maximum dans ce métier, dans des métiers que je découvrirai peut-être.
Parlons mystère et parlons cinéma. Dans quel film auriez-vous aimé jouer ? Alors, dans tous ceux que l'on vous a prêtés, il y avait Léo de Hurlevent, oui. Ma sorcière bien-aimée, Autant n'emporte le vent, Les 400 coups et À bout de souffle, je crois.
Celui qui est le plus dans ma mémoire, ce serait Autant n'emporte le vent, mais il faudrait que je donne un autre film, un film que je cite souvent, mais ce serait La fille de Ryan. Là, c'est un rôle... Quelquefois, on a des bribes comme ça qu'on voudrait d'un rôle. Là, c'est le rôle dans son intégralité, c'est celui-ci. Peut-être À bout de souffle, oui.
Jean Seberg ou Scarlett O'Hara.
Voilà.
C'est pas mal comme choix.
Quelle prétention. Hein.
Alors, le portrait chinois avec un animal, là, c'est amusant parce qu'il y a vraiment tout eu. Hein. Chat, renard, rapace, alors il y en a même un. Animal, machine à sexe, ça c'est quand même surprenant. Il y avait un écureuil, et quand je vois ce matin, c'est vrai que vous avez un côté très écureuil. Il n'y a pas que pour les cheveux d'ailleurs. Il y avait féline, il y avait donc lionne, alors il y a eu donc, je trouvais ça très mignon, le chat, la belette, il manquait plus que les petits lapins. Mais c'est vrai que là aussi, on a du mal à vous caser. Enfin, c'est drôle parce que ça a quand même un côté peluche.
Oui.
Ce sont des animaux soyeux.
J'aime les peluches, en tout cas.
Quel animal auriez-vous choisi, vous ?
Volontiers de la famille des souris. J'accepte l'écureuil, c'est charmant.
Entre l'écureuil et la belette ?
Mais oui, il faut quand même une parcelle de belette, parce que je ne suis pas tout le temps douce.
Vous avez l'air toute douce comme ça, mais en fait, vous n'êtes pas forcément quelqu'un de gentil.
Ouais, faut toujours dire, méfiez-vous du loup qui dort.
Tout à l'heure, Caroline Binet, qui est déjà en train de prendre des notes à mes côtés, nous en dira plus sur la gentillesse, entre guillemets, de Mylène Farmer. On va écouter tout de suite un disque que vous avez choisi, Jacques Dutronc, avec Il est 5h, Paris s'éveille. Il est 5h, Paris s'éveille, c'était Jacques Dutronc, on retrouve tout de suite Mylène Farmer. Jacques Dutronc, c'est quelqu'un que vous écoutiez quand vous étiez petite.
Oui, absolument, que j'écoute toujours. Et je regrette, en tout cas, qu'on ne le voit pas plus.
Il a une certaine conception du métier, lui, qui est beaucoup plus, je dirais... cool, tranquille que la vôtre.
Dans la forme, peut-être pas dans le fond, ça j'en suis pas sûre. On sait pas comment il vit aujourd'hui, ce qu'il pense et ce qu'il ressent. J'avoue, je peux pas répondre pour lui. Je suis pas sûre qu'il vive très simplement ses jours.
Comment vous étiez lorsque vous étiez petite ? Il y avait déjà la grande frange qui vous cachait un peu ?
Oh oui, c'était beaucoup plus long. Ça arrivait au-dessus du nez. Comment j'étais ? Toujours ce paradoxe, introverti, extraverti, enfin, j'étais toujours partagée entre ces deux sentiments. relativement solitaire, je pense, et puis très très attirée par les animaux.
Vous étiez fille unique ?
Non, non, j'ai une famille relativement nombreuse, les frères et sœurs.
C'est vrai que c'est difficile de vous interviewer, parce qu'il fallait vraiment tirer au plus. Donc, et alors, moi, est-ce qu'il y avait un paradoxe entre Mylène Farmer à la maison et Mylène Farmer à l'école? Est-ce que introverti, extraverti, ça se jouait sur ces deux tableaux-là?
Ça pourrait, oui, ça pourrait se définir par ça. C'est vrai que j'étais un peu plus turbulente à l'école qu'à la maison. Un besoin, oui, certainement, d'exister très fort à l'école, et c'était pour moi une torture que d'aller à l'école. Mais j'avais ce paradoxe d'arriver une heure avant, parce que j'avais peur que... d'arriver en retard, et une fois que j'étais assise sur le banc, c'est du masochisme.
Est-ce que vous saviez déjà à ce moment-là ce que vous vouliez faire plus tard ?
Persuadée que je ferais un métier artistique, oui. Maintenant, ça se situait, j'étais quand même attirée par l'équitation. C'est aussi une forme artistique, mais qui était un peu différente, peut-être plus projetée vers les autres. Sinon, c'était plus le théâtre, le cinéma qui m'attirait beaucoup. La chanson me paraissait beaucoup plus difficile d'accès. Et puis, j'ai commencé par ça.
Où avez-vous passé toute votre enfance ?
J'ai vécu assez longtemps à Montréal, au Canada. Et ensuite, je suis arrivée dans la banlieue parisienne, vers Versailles. Ça pour situer un petit peu.
Et le Canada, ça vous manque ?
Du tout, non. Non ? Du tout. La neige me manque parfois, mais pas du tout.
Et votre mode de vie au Canada non plus ne vous manque pas ?
Était radicalement différente, mais quand on est petit, on s'en rend pas vraiment compte de ces choses-là, si ce n'est que je me rends compte du passage, en fait, du Canada à la France, qui là était assez choquant, parce que c'est vrai que le mode de vie est radicalement différent, les gens ne ressentent pas tout à fait les choses de la même façon, sont peut-être un petit peu plus, un peu moins énervés là-bas qu'ici, mais je crois que je fais partie des énervés, donc je suis mieux ici.
Comment ont réagi vos parents quand vous leur avez dit « je veux faire chanteuse » ou « enfin je veux faire dans le spectacle » ? S'il y avait déjà des antécédents dans la famille ?
Non, non, du tout, non. Je l'ai jamais dit, réellement.
Vous avez
fait ? J'ai dit que je souhaitais quitter l'école, en tout cas. Et puis après, c'était une prise en charge. Donc c'est... Non, il n'y a pas eu réellement de dialogue quant à ça.
En fait, vous n'avez pas envie de vous rappeler que il y a d'autres personnes qui ont participé à votre conception et à votre construction. C'est vous qui vous construisez toute seule maintenant.
Non, c'est pas vrai. Il y a des rencontres qui ont été indispensables dans ma vie, mais c'est réellement ma vie d'aujourd'hui. C'est cette année qui sont passées. J'ai rencontré Bertrand Lepage qui est à côté de moi, et puis Laurent Boutonnat qui est le compositeur. Et ma foi, voilà, c'était les rencontres que je désirais, en tout cas, dans ma vie.
Secret de star sur France Inter, notre invitée ce matin, Mylène Farmer.
À votre avis, chez elle, comment c'est ?
Très grand et très clair.
Bon, folklorique.
J'aimerais bien à la campagne, ouais, pourquoi pas.
Moi aussi, parce que j'ai remarqué un peu dans ses clips qu'elle avait un peu tendance à mettre en valeur un peu ce qui est ancien, quoi.
Sobre, neutre, dans les tons, moi je dirais noir et blanc.
Western, style western, moi je vois ça comme ça.
Moi je dis c'est grand et tout blanc.
Un peu comme elle est sur elle, quoi. Assez spéciale, quoi, excentrique.
Loft. Original, comme elle est sur scène. Je la vois plus à la campagne.
À la campagne, ouais, chaud. Chaud comme intérieur.
Moderne, un appartement moderne.
Sans beaucoup de meubles et assez original.
Moi je vois plein de tissus, plein de sofas, plein de couleurs orangées, très chaudes.
Mélange de styles, à mon avis.
Le verdict de Mylène. Où vivez-vous ? Ça vous amuse beaucoup, hein ? Le côté western, ça vous a plu ?
Oui, ce n'est pas moi du tout. C'est plutôt très sobre. Une personne avait répondu très sobre. C'est actuellement rouge et noir. Et c'est pas encore quelque chose de très important pour moi que d'avoir une maison.
C'est vous qui avez quand même choisi votre appartement ou votre maison ?
Non, c'est un appartement. C'est un appartement. Non, j'ai rien choisi du tout. Je suis rentrée dedans. Il était comme tel et j'ai voulu garder ça comme ça.
Il était tout meublé ?
Non, pas meublé, mais il était en tout cas des grandes, comment on appelle ça ?
Des grandes tentures ?
Grandes tentures rouges avec des moulures et une très très grande cheminée. Non, j'ai pas souhaité en tout cas le changer.
Vous êtes quelqu'un de casanier, non ?
Oui, relativement, oui.
Mais alors, c'est là aussi un paradoxe, pour prendre un terme que vous utilisez souvent. Oui. Vous êtes quelqu'un de casanier, mais pourtant, ce n'est pas vous qui avez décoré, enfin, aménagé votre appartement. Donc, généralement, quand on est casanier, c'est qu'on retrouve chez soi des choses qu'on y a mises, un cocon.
Je le souhaiterais un jour, mais pas aujourd'hui. J'y vais pour parce qu'il faut y aller, et pour dormir, et pour et vivre quand même sa vie, c'est vrai. Mais c'est pas quelque chose de fondamental pour moi. Si j'avais réellement à choisir, ce serait une chambre d'hôtel. Mon rêve serait d'acheter une chambre d'hôtel et il y a quelques hôtels dans Paris qui sont magnifiques.
Qu'est-ce qui vous plaît? Le fait que, premièrement, vous êtes servi, donc il n'y a pas à faire cuire le petit déjeuner, ce qui est quand même pas mal.
Ça fait partie des choix, oui. Parce qu'il y a probablement ce manque de racines que... Peut-être que je fuis ça, j'en sais rien, mais il y a quelque chose d'intemporel dans les hôtels qui est agréable, quelque chose de probablement de romantique. De...
Oh, c'est très romantique.
Et puis d'échapper à, peut-être à une réalité aussi.
Est-ce que vous aimez quand même un style en décoration? Si vous aviez un mobilier à choisir, on le mettrait à quelle époque?
Si j'ai réellement à choisir, j'aime bien les années 30. J'aime beaucoup. Mais je crois que je changerai très facilement aussi.
Est-ce que vous allez emmener quelque chose avec vous dans votre loge à Bercy? Est-ce que vous avez un fétiche, un gris-gris?
Quand j'ai fait le Palais des Sports, justement Bertrand avait préparé cette loge. Elle était magnifique, faisait penser un peu à un décor de David Lean. J'avais des photos de ce monsieur, puisque j'aime réellement et ce monsieur et ce film. J'avais une photo de Garbo, vous voyez, j'ai aussi mes posters. J'avais des livres. Et puis quelques objets aussi, mais des choses très très intimes alors.
Vous aimez beaucoup être prise en charge, hein, que l'on vous guide, parce que votre appartement, c'est pas vous qui l'avez choisi, votre loge, c'est pas vous qui l'avez décoré. C'est amusant, c'est...
Certainement besoin des autres, oui. Est-ce que c'est être lucide? Je le pense. C'est savoir quels sont ses moyens et puis savoir ce dont on a besoin. Et ça, il n'y a pas de violence par rapport à ça. Je sais que j'ai besoin de certaines personnes et c'est pas grave, tant mieux.
Tant mieux, elles sont là en plus. Oui. Secret de star avec ce matin, Mylène Farmer, et en face de vous, Mylène, cette dame blonde qui scribougne. C'est vrai, Carline, vous êtes vraiment une scribougneuse. Hein. Vous avez vu, elle arrête pas de noircir des feuilles de papier. Ça doit révéler quelque chose psychologiquement, ça. Alors, Carline, qu'est-ce que l'on peut lire sous la crinière flamboyante de Mylène?
Des choses très différentes. Bon, en sachant que j'allais vous voir, j'ai re-regardé avec mes enfants vos clips, on vous a étudié, et j'étais très étonnée de la différence qu'il y a entre ce côté adolescent, androgyne, que vous donnez beaucoup dans vos clips, et quelque chose de très différent. Il y a une femme qui est mûre, qui est très réfléchie, qui est beaucoup plus posée, qu'elle ne donne l'impression. Et puis bon, ce qui se dégage d'abord, c'est de l'élégance et de l'aristocratie. De l'aristocratie sur tous les plans, une recherche de qualité. Tout à l'heure, vous parliez de morale et d'éthique. C'est vraiment une éthique personnelle, je pense, d'esthétisme. C'est-à-dire que vous voulez être conforme à une image belle de vous-même que vous voudriez donner, et que tout ce qui serait laid, bas, collant, pas
visqueux,
beau,
visqueux, gluant, oui.
Est à écarter très fortement.
Moi, je dirais c'est l'ordinaire qui est à écarter. C'est vrai que l'ordinaire me fait peur.
Oui, tout vous donne envie de vous élever, c'est très très aérien. Et puis il y a une féminité qui ressort, qui de mon point de vue n'est pas du tout la féminité perverse que vous montrez, qui est une féminité d'élégance, de séduction, d'inquiétude un petit peu, et pas du tout une féminité de lâcher prise, de centrage sur soi, de sécurité maternante. Il y a des tas de côtés de Mylène, et puis il y a le côté de ce front que vous cachez. Alors pourquoi est-ce que vous cachez ce front qui, pour un morphopsychologue, est magnifique? C'est-à-dire, c'est un front de femme intelligente, de femme qui réfléchit, qui est très lucide, qui voit beaucoup de choses, qui, quand ça rebondit sur cette sensibilité tellement vibrante, tellement forte que vous avez, donc doit vous donner une créativité tout à fait énorme. Et est-ce que c'est le manque de confiance que vous avez encore dans cette créativité qui fait que vous cachez encore ce front? Vous savez que Colette a gardé son front caché très longtemps, et que quand elle est devenue célèbre et qu'elle a vraiment pris confiance, qu'elle s'est dégagée de Willy, elle a dégagé son front, elle a parlé de l'impudeur de son front. Il y a peut-être quelque chose comme ça en vous.
Peut-être, moi j'ai l'impression que plus je vais avancer et plus je vais cacher mon front, et pas le contraire. Je suis pas quelqu'un qui m'aime beaucoup physiquement.
Qu'est-ce que vous vous reprochez?
On va pas en parler, c'est pas très intéressant. C'est je sais pas, je ne m'aime pas. J'ai cette fascination que le miroir, je peux rester des heures devant le miroir, mais ce sera de la provocation.
vous serez de toute façon toujours exigeante, toujours passionnée, toujours en recherche et en évolution. Ça, vous pourrez... L'angoisse d'avoir besoin d'évoluer, vous l'aurez toujours. Mais peut-être avec un petit peu plus de sérénité quand même.
Peut-être.
Qu'est-ce qui vous dit le menton de Milette ?
Il faut voir le menton et l'ensemble. C'est-à-dire un bon petit menton bien projeté, bien vigoureux, sur une mâchoire bien carrée, qui lui donne une ambition, mais pas une ambition lourde de bulldozer, d'écraser. Tout à l'heure, elle disait « je suis pas toujours gentille, je suis de temps en temps, je peux mordre. » Mais je pense pas qu'elle mordra jamais en début. Hein. Elle a besoin de son indépendance, qu'on la respecte. Hein. Et par contre, si on vient l'attaquer, là, elle va se défendre et elle va mordre, mais si elle est coincée dans un coin. Hein. Par contre, elle a besoin de s'affirmer, affirmer ce en quoi elle croit, ce qu'elle croit juste et bien. Et à ce moment-là, son petit menton. Mais il y a toujours le revers de la médaille. Et le revers de la médaille, c'est cette bouche beaucoup plus tendre, un petit peu enfantine, qui fait qu'on a besoin aussi quand même un peu d'être prise en charge, d'être protégée, d'être rassurée dans sa féminité.
On termine rapidement avec le nez. Là, j'ai vraiment l'impression de mettre... Parce que vous savez, c'est drôle, Mylène, parce que quand je vous regarde, je me dis, la pauvre, elle est vraiment en train de passer un sale quart d'heure. Je la mets sur le grill. Alors, on termine avec le nez, Carline.
Elle a un nez magnifique. Elle a un nez superbe. Qu'est-ce que j'aimerais qu'elle aime son nez, qu'elle...
Vous aimez votre nez, quand même.
Non, alors. Regardez pas votre nez dans la glace quand vous parlez à quelqu'un et regardez la vibration de vos narines. Ces deux ailes de papillon qui sont là en train de vibrer, de faire passer une sensibilité extrême. J'espère que vous ferez du cinéma pour pouvoir faire passer cette sensibilité. Il y a quelque chose de Meryl Streep dans vos narines et donc du même style de sensibilité. Vous êtes trop gentille.
Mylène, 5 minutes de pause, d'accord ? Le temps d'écouter un disque. Après, il y aura les informations et tout est après, bien sûr, on retrouve Secret de Star. Le disque, c'est le disque qui vous a fait connaître, Maman a tort. Oui. Secret de Star avec Mylène Farmer. Mylène, vous serez la semaine prochaine, samedi prochain très exactement, donc le 7 et le 8 décembre à Bercy. Je voulais savoir comment vous vivez cette scène, parce que c'est une salle qui est énorme. Mm-hmm. Alors, comment est-ce que vous trouvez en vous ? Vous avez l'air tellement, je dirais, fragile, pudique. Comment vous trouvez en vous le ressort de vous catapulter comme ça sur une scène ? C'est un peu Blandine.
Parce qu'il y a certainement un facteur inconscient qui fait que vous pouvez vous propulser devant 14 000 personnes et c'est finalement presque la même chose que devant 1 000 personnes. Il y a une part d'inconscience et puis une énorme force et puis surtout une énorme envie d'y aller, quoi.
Vous avez le trac ?
Bien évidemment, oui. C'est absolument incontrôlable et incalculable.
Comment ça se passe lorsque vous quittez la scène ?
Ça, c'est un état qui a bien évolué depuis le début. Quand j'ai fait le Palais des Sports, qui était réellement ma première scène, les premiers jours, il y avait effectivement ce phénomène de... On a l'impression qu'on est hors du temps, hors de la vie, et puis on est très perturbé pendant 2 heures. Après, c'est vrai qu'on est obligé de... Mais pendant cette période, justement, j'ai souhaité, moi, dormir à l'hôtel, par exemple. Donc, c'était une manière à moi de vivre ça aussi différemment et intensément. Et c'est étonnant et c'est très complexe aussi à expliquer ce qu'on peut ressentir sur une scène. J'ai un petit peu de mal à formuler toutes ces émotions. C'est en tout cas une réelle émotion. Et c'est ce que je sens en tout cas aujourd'hui, c'est que je ne le vivrai peut-être pas demain. Et c'est quelque chose aussi qui angoisse.
On peut penser donc la nuit du 6 au 7 et celle du 7 au 8, vous serez à l'hôtel.
Probablement.
Probablement.
Peut-être, ou peut-être que je souhaiterais autre chose alors, puisque je l'ai déjà vécu. Mais ces deux derniers jours, oui, seront terribles, quoi, terribles d'émotions.
Je vous propose d'écouter, vous savez, dans Secret de Star, il y a une séquence avec un témoin caché.
Oui, j'en redoute.
Voilà, vous redoutez, vous avez raison. C'est quelqu'un qui est proche de vous et qui a accepté très gentiment de nous donner son témoignage au téléphone. Après, je vous dirai pourquoi j'insiste un peu comme ça lourdement, parce que c'était vraiment très gentil de sa part, vu que ce n'était pas très facile à faire.
Mais j'ai eu l'occasion, très sympathiquement, de rencontrer Mylène au cours de son clip que nous avons fait, pourvu qu'elle soit douce. Et au début, bon, on m'avait dit d'ailleurs qu'elle montait à cheval et tout, et j'ai d'ailleurs été très agréablement surpris de voir qu'elle montait parfaitement bien. Et après, elle m'avait dit qu'elle avait travaillé dans les chevaux, elle était venue chez moi essayer les chevaux. Et au départ, je lui avais donné un cheval hyper cool, si on peut dire, que je donne généralement aux comédiens, et j'ai très vite changé, j'ai plutôt donné un cheval qui a beaucoup plus d'allure et qui montait bien. Elle avait tendance à toujours vouloir les grands galops, les choses comme ça. Ça a été très très sympa. Pendant le tournage du film, on a eu la partie du son et du démarrage dans les fougères, là, parce que ça, on voulait le faire très très vite à cause de la lumière. Et en fin de compte, ça m'inquiétait un petit peu parce que j'aime bien essayer de voir s'il n'y a pas de problème dans les fougères, parce que quand vous avez des fougères d'un mètre cinquante de haut, vous voyez absolument rien, donc il faut passer au triple galop à travers. J'avais peur un petit peu que le cheval pute et qu'elle tombe. Elle me disait, mais non, ça va aller, elle est partie, vent du bas, et ça a très très bien marché. Non, c'est une excellente cavalière.
Alors, qui est ce témoin caché dont nous avons bien sûr déguisé la voix?
C'est Mario Luracci.
Mario Luracci. Oui. C'est lui qui, enfin, c'est le spécialiste des cascades à cheval et que vous avez rencontré pour le tournage de Libertine.
Ah oui, c'était un grand, grand plaisir de l'avoir rencontré. J'avais le souhait de revenir très souvent chez lui pour monter à cheval, mais c'est vrai qu'il y a eu une coupure après, bon, qui était la préparation de la scène, et puis après, on se défend de prendre des risques, mais, c'est quelqu'un dans son domaine qui est passionnant, passionnant.
Alors là, nous l'avons joint au téléphone à Vérone, où se déroulait la fête du cheval.
Oui.
Alors, je crois qu'il y a 1700 chevaux qui sont présentés, dont les siens. Et il part à la fin de la semaine tourner Lucky Luke avec Terence Hill. Vous voyez que la succession est assurée après Libertine, c'est Lucky Luke. C'est un de vos grands bonheurs, sa montée à cheval.
Oui. J'ai voulu en faire mon métier, je sais qu'aujourd'hui, je ne me suis pas trompée. Mais c'est drôle parce que je me rappelle, j'avais passé cet examen de passage qui est à Saumur pour passer le monitorat. Et c'est un examen bien difficile quand on a 17 ans. Et on m'avait demandé, il y a toujours cette question fatidique, pourquoi voulez-vous absolument faire ce métier? Et j'avais répondu de but en blanc que je souhaitais créer un centre hippique pour handicapés. C'est quelque chose qui les avait laissés quoi. Et j'ai compris, je ne ferai jamais ce métier de toute façon.
On vous a préparé une petite surprise, quelqu'un de votre entourage a cafeté, et nous a dit que vous aviez beaucoup d'admiration et de sympathie pour un chanteur qui s'appelle Jean-Louis Murat, et que, par exemple, il y a un titre de Jean-Louis Murat qui est L'Ange déchu, que vous avez écouté très 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 souvent, et que vous connaissiez pratiquement par cœur. Alors nous, bien sûr, machiavélique, on s'est dit, on va lui passer un extrait de L'Ange déchu, on va chanter... On va couper, Mylène Farmer, vous allez enchaîner en direct.
Je ne connais pas par cœur du tout.
Mais vous pouvez fredonner.
On peut essayer.
On peut essayer.
Je n'aime pas ça.
On essaye.
Je jette une orange vers l'estomac. Quand s'éveille l'ange,
terrible pour lui.
Mon pauvre gars.
Je ne connais pas cette chanson par cœur, je suis désolée. J'aime l'auteur, en tout cas, j'aime l'interprète.
Alors, est-ce que c'est quelqu'un vers qui vous êtes allé un jour?
Non, j'ai souhaité lui... en tout cas, lui envoyer un mot pour lui dire que j'aimais ce qu'il faisait, mais là, une fois de plus, on a peut-être, à tort, un peu de pudeur, et j'ai un petit peu de mal à le faire, mais je le formulerai d'une façon un autre jour, certainement.
Et si lui vous écrit un petit mot?
Mais j'en serais ravie.
Ben voilà, Jean-Louis Murat, qui a écouté, qui doit être tout dépité, piteux, qu'en fait, vous n'ayez pas pu enchaîner en direct sa chanson.
Non, qu'on pardonne, vraiment qu'il me pardonne, mais c'est...
Alors si Jean-Louis, si vous pardonnez à Mylène, vous lui envoyez un petit mot, voilà. On va écouter, alors là, non, là, c'est pas une surprise, hein, je vous demanderai, je n'arrêterai pas le disque, je ferai rien d'autre, c'est Kate Bush et Peter Gabriel, en duo, avec Don't Give Up, c'est un de vos choix.
C'est peut-être la plus belle chanson que j'ai jamais entendue.
Kate Bush et Peter Gabriel, Don't Give Up, qu'est-ce qui vous plaît le plus, Mylène, dans la chanson? C'est la mélodie ou c'est le mariage des deux voix?
Je crois que c'est une osmose, c'est le texte, c'est la mélodie, c'est l'interprétation, les interprètes. Et puis il y avait un clip qui était d'une sobriété magnifique. Et puis, c'est probablement ce à quoi j'aspire, c'est faire passer une émotion. Je crois qu'il n'y a que ça qui compte pour moi.
C'est quelque chose, c'est une chanson que vous auriez aimé enregistrer, faire?
Oh, je ne suis pas sûre. J'aime l'entendre. Je crois que là, il y a vraiment les interprètes rêvés, en tout cas pour cette chanson. Mais c'est magnifique, oui.
Secret de star sur France Inter avec Mylène Farmer ce matin.
Que pensez-vous de son look?
Fallait y penser, ça n'avait pas encore été exploité comme filon.
À part dans ses clips, je ne sais pas trop comment elle est en fait. Je veux dire, je suppose que dans la vie, elle s'habille aussi un peu comme ça peut-être.
Que pensez-vous de son look? J'adore.
Il est bien, j'aime bien.
Ouais, ça va, elle le cultive, c'est bien.
C'est bien?
Ça lui correspond, je trouve.
C'est justement ce que j'aime chez elle.
J'aime beaucoup, j'aime bien son look.
Elle a du goût et c'est original, elle sort des autres stars.
J'aime bien.
Je ne changerai rien.
Mylène Farmer, que pensez-vous de votre look?
Je ne sais pas si j'ai un look. J'aime en tout cas, j'aime les habits. J'aime m'habiller Et c'est quelque chose, si j'ai une réflexion par rapport à faire par rapport à ça, c'est que je déplore qu'on n'ait plus, que les gens n'aient plus réellement envie de bien s'habiller, mais dans n'importe quel lieu. Même en télévision, quand je vois, puisque c'est le cas qu'on regarde le plus facilement, les gens se négligent un petit peu trop, je trouve. Et est-ce qu'il faut parler de respect? J'en sais rien. Moi, j'en ai un pour les personnes qui vont me regarder. J'en ai un pour moi aussi. Donc ça fait partie de ma vie. Donc je sais pas s'il faut parler de look. Maintenant, il y a effectivement une recherche quant à la façon de s'habiller parce qu'on fait, on va faire attention à mille choses, à des couleurs, à probablement à un style. En tout cas, ça fait partie intégrante de ma personnalité.
Alors, si vous le voulez bien, on va demander à France Gadea, qui est à mes côtés ce matin, qui est notre lookeuse, de vous donner non pas quelques conseils, mais de faire quelques réflexions sur la silhouette de Mylène. Comment pourrait-on l'habiller différemment?
Bon, je veux d'abord parler de l'image que je reçois d'elle, parce que bon, je ne peux rien construire sans ça. Et puis, bon, c'est ce côté elfe de la mythologie scandinave qui me bat très très fort. Et donc, ce génie aérien qui symbolise le feu, l'air, la terre, mais le monde végétal surtout. Il faut pas qu'elle change en fait, parce que c'est un anti-look, ça c'est sûr. Elle est entourée de mystères, mais c'est un mystère bénéfique. En fait, les gens n'aiment pas trop ne pas savoir à qui on a affaire, et avec elle c'est très fort, c'est bon ça. Et donc qu'elle le respecte, et qu'elle respecte ce côté, ce compromis qu'elle est entre le rêve et la réalité. Alors donc on a envie de l'habiller pour prendre look pour look, c'est-à-dire vêtements qu'elle pourrait mettre pour elle. C'est le côté qui respecte la poésie, l'émotion qu'elle est, avec cette simplicité originelle, cette discrétion, avec des tissus qui se drapent, qui se superposent en s'enroulant autour du corps, pour glisser, fluide, longue, silhouette longue qui glisse, et utiliser aussi des mélanges de matières, des contrastes entre le mat et le brillant, ombre et lumière, le côté opaque, transparent, pour mettre en harmonie tout le vêtement en mouvement. Ça, c'est important, mais ça reste toujours très subtil et très poétique, en fait. Ça, c'est pour le look. Elle peut s'habiller dans les tons crémeux poudrés, dans les pastels poudrés.
Pastels, oui.
Pastels poudrés qui lui iraient parfaitement dans ce type de tenue, mais un espèce de colimaçon qui bouge comme ça. Puis alors, là où on avait envie de délirer, c'est ce côté elfe, parce que ça, c'est très, très fort. Elle a vraiment le visage, elle a tout. Et on avait envie de la déguiser, enfin déguiser entre guillemets, parce que ça c'est du délire, et de lui proposer une tenue à base de body, un body en métal, en maille métal or, par exemple, jusqu'aux pieds, avec des manches, avec des gants incorporés, et par-dessus un petit gilet très court sous la poitrine, avec plutôt rigide carcan, mais doux, en velours par exemple, dans les tons feuilles mortes, avec de grandes manches qui pendouillent un peu dans le style manche moyenâgeuse qui traîne en organza, par exemple, irisée dans les tons mordorés. Voilà, il y a tout ce côté elfe, mais il faut qu'elle garde cette part de rêve, et c'est très très important qu'on ne la devine pas, parce qu'en fait, quand elle parlait d'anti-look, ça c'est très fort pour moi, enfin, quand je la vois, c'est ce costume de scène qu'elle a. Pour moi, c'est vraiment l'archétype. C'est pas du tout un look. C'est comme Colombine, Pierrot, c'est comme les comédiens autrefois qui enfilaient un masque ou une défroque. Ils interprètent leur... Mais ce sont des personnages uniques. Pouf, on passe à autre chose et c'est encore autre chose. Et en fait, il faut qu'elle garde ce côté-là, qu'on ne saisit pas. Elle est elle, et puis il faut qu'elle... Si elle peut le garder longtemps, elle... ça, c'est exactement ce qu'il lui faut.
Mylène, vous vous sentez d'attaque pour le body métallique jusqu'aux pieds avec les petits...
Moi, je suis prête à tout. Je veux bien voir quelle silhouette j'aurai. La plus belle silhouette en tout cas que j'aime, c'est, on en revient toujours, c'est celle de qu'avait Catherine Hepburn, justement. Elle avait, qui n'a rien à voir avec la deuxième partie, mais j'aime ce côté qui est finalement très très sobre, mais qu'on pourrait qualifier finalement de masculin, mais ce sont toujours des pantalons avec des petits tennis, des choses qui sont très... très pastel en général aussi, et qui sont très très féminins. Enfin, pour moi, ça c'est vraiment la représentation d'une grande classe en tout cas. Maintenant, les excentricités, je pourrais les aimer.
Mais le
aussi.
Côté, c'est en fait une atmosphère, une ambiance qu'il faut respecter. Ce côté lumière poudrée, bon, ben, le côté colimaçon, de la matière qui bouge simplement, avec le côté opaque brillant, ce côté-là qui ondule, cette harmonie en mouvement est importante avec ces pastels poudrés. Moi, je vois bien dans un look pour le look. Bon, le reste c'est du lire, parce que le côté elfique, ça c'est tout à fait cool.
Est-ce que vous aimez vous déguiser, changer de costume, vous surprendre?
Ce genre de déguisement, non, je les effectue d'une autre façon, mais pas dans le vêtement, non.
Les vêtements, ça vous passionne? Vous êtes capable de tout pour aller trouver un vêtement pour...
Ah oui, je l'ai fait. Je l'ai fait. J'aime bien aller vers les créateurs. Je préfère que, d'ailleurs, aller moi de mon propre chef que le contraire. J'ai travaillé là pour sur la scène avec Thierry Mugler et c'était assez passionnant.
Je sais que vous avez une folie, ce sont les chaussures.
Oui.
Je sais même que vous avez fait 200 kilomètres un jour pour aller jusqu'à Anvers pour trouver je crois que c'est une jeune femme qui dessine, qui fait des chaussures absolument somptueuses.
Oui, qui a un nom, je n'arrive pas encore à le prononcer. Mais je les ai aux pieds d'ailleurs. J'adore les chaussures. Est-ce que c'est révélateur de quelque chose? Il y a beaucoup de formules sur les chaussures, je ne sais pas, vous allez peut-être pouvoir me le dire.
Bah, c'est-à-dire qu'on dit toujours qu'il vaut mieux avoir une belle paire de pompes et un beau bagage et de négliger le reste, parce que de toute façon, on est tout de suite catalogué. Mm-hmm. Et ça, c'est symptomatique. On n'a pas peur d'un gars en jean avec des cheveux longs huilés, dégueulasses. Mm-hmm. Si on regarde ses pompes et qu'elles sont propres ou qu'elles sont originales quelque part, on n'a pas peur. Mm-hmm. Alors donc, c'est important quand même, c'est révélateur. La chaussure et le bagage. Mm-hmm. Le reste, on s'en fout.
Bon, je vais faire des progrès côté bagages.
C'est l'accessoire qui compte. À quoi je sers, c'était Mylène Farmer, un titre que vous allez chanter donc la semaine prochaine.
Oui.
C'est dans quel ordre?
Dans le spectacle.
Oui.
Elle se situe en milieu de spectacle, donc ça doit être à peu près la sixième. Il y a 14 chansons, donc la sixième. La façon dont on a envisagé cette scène, c'était très important que de finalement réécrire une histoire avec déjà des petites histoires. On a essayé de faire évoluer un personnage qui est le mien, de faire évoluer un personnage dans la vie. Donc ça commence par l'horloge et puis à plus grandir, etc., etc. C'est comme on aurait pu envisager la construction d'un scénario finalement.
Le scénario n'est peut-être pas très loin d'ailleurs.
Ça,
qui sait ?
On verra.
Rendez-vous le 7 et le 8 décembre donc à Bercy pour Mylène Farmer. Merci d'avoir passé cette heure en notre
Merci
compagnie.
À vous.
Ça va ?
Merci.
C'était pas... C'est bien quand ça s'arrête, hein ?
Non,
c'est comme
ne
le dentiste,
ça,
secret c'est... star. C'est bien quand la fraise s'arrête. À bientôt, Mylène.
Merci à vous, au revoir.